Alors j'espère, oui, disons, c'est un livre qui regroupe environ 30 ans d'expérience dans le domaine. En ce qui me concerne, j'ai une formation de professeur de ski, d'expert, etc. J'ai beaucoup travaillé avec l'association fêtière des ce qui s'appelle Suisse Non Sport en Suisse, qui forme les professeurs de ski avec les étudiants en sciences du sport, ce qui fait que c'est vrai que j'ai acquis grâce à ce travail-là quelques connaissances, et il me semblait intéressant de pouvoir les regrouper. Maintenant, c'est aussi vrai que j'ai la chance de travailler dans un environnement qui fourmille de capacités. Typiquement, vous faites allusion à la biomécanique. Moi, je suis pas une star en biomécanique. Par contre, je descends de 200 mètres et j'ai un biomécanicien qui peut me répondre à mes interrogations à ce sujet, et donc concocter un chapitre qui devrait donner quelques réponses aux personnes qui sont intéressées par ce domaine-là dans le contexte du ski.
D'ailleurs, dans la liste de tous ceux qui ont collaboré et vous ont donné un peu d'aide à la rédaction de ce livre, il y a également des stars de la vitesse. Je pense à William Bess.
Oui, disons, c'est des gens que je connais via ma carrière. Et puis, je suis assez conscient, disons, de mes limites. Moi, je suis un technicien, je suis un théoricien, je suis à quelque part payé aussi pour réfléchir. Et puis, il y a des autres personnes qui sont sur le terrain. Moi, je suis pas sur le terrain. Dès lors, au moment où je voulais proposer aux lecteurs des suites méthodologiques, parce que c'est aussi quelque chose qu'ils demandent, c'est-à-dire comment on applique pratiquement les différents conseils qui sont proposés, je me suis dit plutôt que commencer à massacrer mon esprit pour essayer de trouver des suites qui sont intéressantes, allons chercher chez les professionnels autour de moi qui me donnent leur vécu. Et c'est comme ça que j'ai contacté justement des Wills, des Eric Haes, des Yannick Bonzon et d'autres collègues qui m'ont donné un petit coup de main dans ce domaine-là. Donc j'ai essayé d'ouvrir la démarche, la méthodologie de mon travail à d'autres personnes afin que le livre soit plus, comment dire, coloré, si vous me permettez l'expression.
Alors ces 30 dernières années, le ski a beaucoup changé, ne serait-ce du côté du matériel. Vous jugez comment cette évolution, notamment du point de vue de l'enseignement du ski ?
Alors, c'est une chose, au fait, qui est assez paradoxale. Parce que c'est vrai que le matériel, la préparation des pistes, on en a parlé tout à l'heure, a beaucoup simplifié l'accès à la montagne. Ce qui, par ailleurs, peut aussi poser des problèmes quand on sort des pistes, parce qu'effectivement, l'accès à la montagne avec les skis très très larges peut aussi être dangereux. Maintenant, ce qui est aussi à l'inverse, je dirais qu'on a faussement la croyance de penser que cette facilitation de l'accès à la montagne fait que le sport est plus facile, ce qui n'est pas vrai au fait. Si vous voulez, en quelque sorte, je pense que le matériel, l'évolution du matériel permet aux jeunes ou à l'adulte de tourner, de freiner plus vite dans son apprentissage. Par contre, ça nécessite quand même, qu'on le veuille ou pas, un apprentissage relativement long si on veut aller ou se rapprocher de l'excellence. Et le ski, comme beaucoup de choses dans la vie, que ça soit l'art, que ça soit le journalisme, que ça soit l'enseignement, devient intéressant et performant quand on se rapproche de l'excellence. Et ça nécessite inévitablement un apprentissage et un engagement.
C'est un sport complexe.
C'est un sport complexe, oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a probablement séduit dans la démarche que je faisais, parce que le ski est un domaine de recherche absolument extraordinaire. Et je pense que, ça à nouveau, je me mets à la place des biomécaniciens, mais je sais qu'il est très très difficile de faire un modèle biomécanique du skieur, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Si je vous dis que chaque fois que vous faites un virage, vous êtes dans une situation différente, vous le comprenez aisément dans la mesure où la pente change, la vitesse change, l'inclinaison, les bosses, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est très très difficile à modéliser, et ce qui en fait justement un domaine de recherche super intéressant.
Et puis justement, en plus, il y a la nécessité pour le moniteur, puis c'est frappant dans votre livre, de s'adapter à la personne, tant en fonction évidemment de ses aptitudes, que de son âge, que de sa taille. Il faut vraiment mettre la personne au centre de l'apprentissage.
Oui, et puis pour cela, justement, moi, c'est une chose, je suis très, très, très sensible à tout ce qui est l'enseignement individualisé. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tendance, dans l'enseignement du ski en particulier, à avoir, si vous voulez, une forme technique maîtresse, et que tout le monde doit s'adapter à cette forme technique. Et ça, c'est véritablement faux. Parce qu'une femme ne skie pas comme un homme, sans aucun jugement. Alors, un homme ne skie pas comme une femme, un enfant ne skie pas comme un adulte, quelqu'un qui est plus fort, qui est plus gros, qui est plus grand, etc., etc. Il y a des différences. Et le ski, quand on le connaît, offre des possibilités de réponse à ces différentes typologies de personnes. Et donc, il faudrait pouvoir s'y adapter. En clair, si on devait se trouver sur les pistes, vous et moi, logiquement, je devrais essayer de rechercher en vous quels sont vos capacités premières, quelles sont vos qualités qui vous permettraient d'arriver le plus vite possible à la réalisation d'une forme. Mais pour pouvoir faire cela, il faut que je connaisse toutes les différentes possibilités de déclenchement, de conduite, de forme. Et c'est pour ça justement qu'on a essayé dans ce livre de les répertorier, de les démontrer pour que la personne qui est intéressée à l'enseignement ait une culture du geste la plus large possible.
Quelles sont les erreurs les plus courantes dans ce domaine de l'enseignement du ski, les erreurs qu'on pourrait facilement éviter si on y pensait?
Moi, je pense que c'est le choix de la situation. On en parlait tout à l'heure. Je crois que la plus grosse erreur, c'est d'imaginer, on parlait hors antenne de ce problème, de se retrouver au milieu d'une piste avec un enfant qui ne peut plus aller en avant, qui ne peut plus aller en arrière, qui pleure, etc. C'est clairement un problème de situation. Et je crois que si les enseignants mettaient beaucoup de peine à rechercher la meilleure situation, ce qui diminue aussi tout l'impact émotionnel, parce que le ski reste quand même une activité émotionnellement assez forte, hein. Je veux dire, on peut avoir peur, la fatigue aidant, pas forcément non, aussi, je veux dire, plus on est fatigué, plus on peut être déstabilisé. Donc je pense que la recherche de la situation aide souvent le mauvais choix chez l'enseignant, et si on réussit à trouver cette bonne situation, on a généralement, je dirais, pas loin du 50% de la réussite.
Pierre Perrelet, merci beaucoup pour votre participation au Format A3 ce matin. Alors, comme cet hiver, il n'y a décidément pas assez de neige, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe l'hiver à lire votre livre. Comme ça, on est d'attaque pour l'hiver prochain.
Et puis, on en reparle l'hiver prochain avec,
plaisir.
Merci beaucoup.
Donc, Enseigner le ski, c'est paru aux presses polytechniques et universitaires romandes. On vous souhaite une très belle journée. Merci.
Très belle journée à vous aussi. Merci.
Au revoir.